de défi de la persévérance. Dans cette deuxième partie, nous allons plutôt nous adresser aux couples qui sont déjà mariés, qui sont l'un avec l'autre. Et le message principal sera le défi de la persévérance. On a vu qu'il y avait un acte de foi pour s'engager l'un avec l'autre dans un mariage que l'on veut durable, pérenne. Et là, on va voir qu'il faut, pour ensuite faire durer ce mariage, il faut de la persévérance. Alors, quand on traite de ce thème-là, on peut l'aborder sur beaucoup d'angles différents. Et il existe de nombreux livres, d'ailleurs si certains sont intéressés, je pourrais leur en conseiller quelques-uns, sur les relations conjugales et savoir comment les gérer de façon selon Dieu. C'est pas toujours facile de trouver une base biblique. Pourquoi ? Parce que les passages sur le mariage dans la Bible ne sont pas rassemblés dans un texte cohérent, mais sont épars dans divers récits. On a vu qu'il y avait des exemples qui étaient parfois un peu loin de nous, donc pas très faciles à appliquer. Il y a des versets ici ou là, dans les épîtres, dans les évangiles, et donc ça forme un patchwork pas très facile à mettre ensemble. Alors, il m'a semblé que une façon d'aborder ce sujet, peut-être les plus simples, avec une base biblique, et c'est ce que nous allons faire dans la première partie, c'était de se concentrer sur un certain nombre de textes qui sont l'un l'autre. Alors j'en ai pris 6, il y en aurait d'autres, mais bon, j'ai un temps limité. 6 textes l'un l'autre. Alors quand on lit ces textes l'un l'autre, on pense à l'un l'autre ou les uns les autres, c'est avec mon frère ou ma sœur dans mon église. Spontanément, c'est rapidement ça qui vient à l'esprit. Mais l'un l'autre, ton prochain, ta prochaine, c'est d'abord ton conjoint. C'est d'abord lui. De sorte que tous les passages qui s'adressent au prochain ou à l'un l'autre, eh bien, il faut d'abord les vivre dans le couple. Parce qu'il serait totalement illusoire de penser qu'on peut être un parfait frère ou une parfaite sœur dans le cadre de son église locale, si dans le couple, ça ne cesse de en bisbille. Donc, exerçons-nous à pratiquer ces différents verbes, aimer, porter, supporter, pardonner, édifier, se soumettre. Étudions-nous à les vivre dans le cadre de notre couple, d'abord. Et puis ensuite élargir les cercles. Et ensuite nous regarderons quelques considérations pratiques. Alors bien entendu, on va prendre pour poser un petit peu dans quel contexte on vit et dans quel contexte ce défi de la persévérance doit se vivre. Eh bien, j'ai collecté quelques statistiques. Il y a une formation de statisticien, c'est toujours un peu mon tropisme, mais c'est intéressant parce que ça permet de mettre un petit peu les choses en lumière. Concubinage prémarital, je trouve un chiffre de 90, le sondage de la vie c'était plutôt 93, mais bon. C'est comme ça. En tout cas, une énorme partie des conjoints arrivent au mariage en ayant déjà vécu une période de concubinage, de cohabitation. On peut avoir tous les termes les plus euphémiques possibles, mais au bout du compte, ils ont vécu ensemble. Et on a vu dans la première partie que ça ne nous semblait pas être selon la pensée de Dieu. Et d'ailleurs, dans le même numéro de La Vie dont j'avais extrait la statistique précédente, il y avait une interview d'un prêtre qui disait qu'il était rarissime qu'il marie à l'église catholique deux personnes qui ne vivaient pas ensemble depuis X mois, voire X années. Alors, le deuxième élément statistique, dans 45% des cas, le mariage est célébré alors qu'il y a au moins un enfant de né de l'union. Si vous voyez ici l'évolution du taux de nuptialité, le taux de nuptialité, c'est le nombre de mariages par 1000 habitants. Donc vous voyez, il n'a cessé de décroître depuis 1949 jusqu'à 1999. Le nombre de mariages, lui, a décru moins fortement, mais la population ayant augmenté, quand on regarde le taux de nuptialité. Alors il y avait eu le boom de l'an 2000, hein, vous le voyez très bien ici, vous voyez la petite bosse en l'an 2000, et puis après ça continuait à redécroître. On s'était dit, tiens, est-ce que c'est une nouvelle ère qui s'ouvre ? Malheureusement pas. Par contre, quelque chose qui monte, c'est le taux de divorce. Donc ici, vous avez les mariages en nombre, la courbe en rouge, les divorces, la courbe en marron, et vous voyez l'augmentation récente très forte. Et si on prend le ratio de divorces, eh bien, on augmente encore très fortement. Maintenant, on est à un taux de divorce qui est vraiment impressionnant, qui a dépassé 50%. Et plus encore, c'est que quand est-ce que se produisent ces divorces ? Ils se produisent de plus en plus tôt dans le mariage. Donc on voit que le pic est atteint entre 3 et 4 ans de mariage. De sorte que si on regarde les proportions de mariage par ancienneté, eh bien on voit qu'en 2005, c'est la courbe violette en bas, eh bien au bout de 30 ans, il y a un mariage sur deux qui existe encore. Et encore ça, bon, je ne vais pas rentrer dans un cours de démographie, mais ce n'est pas une vision longitudinale. C'est-à-dire que si on prend des jeunes qui se marient aujourd'hui, leur courbe à eux, elle serait bien plus basse. Bon. Alors, vous savez, c'est aussi l'histoire de la bouteille à moitié pleine et de la bouteille à moitié vide. On peut quand même se réjouir qu'il y ait quand même 50% des mariages qui tiennent encore debout au bout de 30 ans. Donc, grâce à Dieu, même dans nos sociétés, ce n'est pas encore complètement la catastrophe. Mais enfin, on voit l'évolution, la pression de la société. Il y avait une pression face au défi de l'engagement. Il faut s'essayer, il faut flirter, avoir plein de petits copains-copines avant de trouver le bon ou la bonne. Et puis, il y a un défi, face au défi de la persévérance, il y a une pression pour que le mariage, ça dure X années, et puis après, on change. Et pourquoi? Qu'est-ce qu'on dit d'abord? Eh bien, on dit, si on ne s'aime plus, il faut divorcer. Pourquoi? Parce que sinon, on est hypocrite. Et on ne veut pas être hypocrite. C'est bien de ne pas être hypocrite. Très bien. Bien d'accord. Cela étant, qu'est-ce que ça veut dire ne plus s'aimer? Si ne plus s'aimer avec Anne, c'est parce que je ne ressens plus la petite palpitation que je ressentais quand on était fiancé ou tout jeune marié, voilà. Ben c'est vrai que la petite palpitation, je ne la ressens pas tous les soirs quand je rentre. Et ce serait stupide de m'attendre à la voir tout le temps. Je l'ai encore de temps à autre, rassurez-vous. Mais ce serait stupide de l'attendre tout le temps. Donc l'état amoureux n'est pas quelque chose de soutenable. Même la psychologie de base le dit. De sorte que la Bible se fait le reflet de notre humanité, de notre réalité d'êtres humains. Mais est-ce que ça veut dire pour autant qu'il n'y a plus d'amour? Parce qu'il n'y a plus le petit... Ah, oh là là, je suis en état amoureux. Et c'est ce que recherchent certains. Ils sont drogués, ils se droguent à ça. Sauf que quand ils ne sont plus dans l'état amoureux, ils laissent tomber pour essayer de le retrouver. Or, il est normal que l'amour se montre de façon différente. Et c'est bien ce qu'écrit Paul. Quant à vous, que le Seigneur vous fasse abonder et surabonder en amour l'un envers l'autre. Alors bien sûr, on va penser à cette sœur qui m'énerve dans l'église pour que je surabonde d'amour envers elle. Ok, mais la sœur qui est à côté de toi tous les jours, dans ton lit, eh bien, là aussi, abondez, surabondez en amour. Donc, cet ordre positif du Seigneur, je vous donne un commandement nouveau, que vous vous aimiez l'un l'autre, il est valable a fortiori pour le couple. Ces versets qu'on connaît, qu'on chante avec bonheur, eh bien, est-ce que, immédiatement, la pensée qui me vient à l'esprit, si je suis marié, c'est « je dois le vivre, ce commandement, avec ma femme ». C'est sûr que je peux aimer mon frère qui est en Australie, ou les chrétiens persécutés de Chine, de tout mon cœur, mais... c'est beaucoup plus facile que d'aimer un conjoint dont les petites manies parfois énervent. Ben oui. Cela étant, on a des textes qui sont spécifiquement pour les conjoints. Alors, je commence par les femmes, parce que souvent on dit, oui, mari, aimez vos femmes. C'est vrai, c'est très vrai. Mais il y a aussi ce verset de Tite 2, verset 4, où les femmes âgées doivent instruire les jeunes femmes à aimer leur mari. Est-ce que c'est un verset qui est vraiment mis en pratique dans nos églises? Est-ce que les femmes âgées, il y a des femmes âgées ici? Et à la pause, certaines me disaient qu'elles étaient heureusement mariées depuis 50 ans. Et d'autres peut-être depuis 40 ans, et d'autres peut-être depuis 30 ans. Alors, je suis désolé de vous appeler des femmes âgées, excusez-moi, c'est peut-être pas très poli, mais néanmoins, vous êtes des femmes qui avaient une expérience dans le mariage, néanmoins, eh bien, faites-en part, c'est un ordre. Paul dit que les femmes âgées instruisent les jeunes femmes à aimer leur mari. Et l'ordre pour les maris est direct, mari, aimez vos femmes. Alors, la mesure, elle est infinie. On ne peut jamais dire qu'on aime suffisamment sa femme. Comme le Christ a aimé l'Assemblée et s'est livré lui-même pour elle. Et on voit combien se livrer lui-même pour elle va nous donner une dimension de l'amour, va nous indiquer un petit peu ce qu'est vraiment l'amour au sens de Dieu. Et on va revenir là-dessus. Alors, cet amour doit se vivre à tous les niveaux. On avait vu les différentes dimensions de l'homme. Souvent, aujourd'hui, on limite l'amour à l'amour des corps. Il faut sentir cet instinct un peu sexuel d'attirance physique, et que le grec met sous le terme d'éros. Mais ce n'est pas le seul verbe d'amour qui existe en grec. Et d'ailleurs, le verbe eros, assez amusant, ne se trouve pas une seule fois dans la parole de Dieu. Non pas qu'il n'exista pas à l'époque, mais tout simplement parce que, selon Dieu, la dimension de l'amour ne peut pas se limiter à ça. Elle l'inclut. Relisez le Cantique des Cantiques en le prenant face value, vraiment au pied de la lettre, et vous verrez comment Dieu parle de l'amour physique. Mais ça n'inclut pas que ça. Pourquoi? Parce qu'il y a les échanges au niveau de l'âme. Ça, c'est plutôt philéo, cet amour d'affection, d'attirance, de choix. Et puis tout cela, c'est sanctifié par l'amour agapao, l'amour selon Dieu, qui englobe la dimension complète, esprit, âme et corps. Parce que si j'aime ma femme, je n'aime pas simplement sa plastique. J'aime aussi son âme, j'aime aussi son esprit, sa façon d'être en relation avec Dieu. Je l'aime globalement aussi. Et c'est pour cela que cet amour doit se vivre sur les différents niveaux. Alors, l'amour, ça ne doit pas simplement rester « Oh, je t'aime mon chéri », même si c'est très vrai. Et je pense qu'il faut le dire, l'amour, les uns aux autres. Une fois, j'avais posé la question à une réunion de mariage. Essayez de vous rappeler de la dernière fois quand vous avez dit à votre conjoint « Je t'aime ». Pour certains, ce sera ce matin. Pour d'autres, ce sera, il y a, ben oui, notre anniversaire de mariage peut-être. Pour d'autres, ce sera, oh là là, il faut le dire. L'amour a des langages. Et alors, il y a un chrétien américain qui s'appelle Gary Chapman, qui a écrit un best-seller qui est vendu, je ne sais pas combien d'exemplaires, mais qui est très intéressant et dont je vous recommande la lecture. Il dit qu'en fait, il y a 5 langages d'amour différents. Les gestes de tendresse, les moments de qualité, les paroles valorisantes, les services rendus et les cadeaux. Et que chacun de nous, on est plus ou moins sensible à un langage d'amour. Et il faut que notre conjoint essaie de trouver le langage d'amour qui nous parle. Par exemple, quand on fait des préparations au mariage avec Pierre-Yves et Elisabeth, Pierre-Yves et moi, on dit, nous, les cadeaux, pas trop, quoi. On est content quand on en reçoit un, mais on préfère. Il y a d'autres dimensions qu'on valorise beaucoup plus. Bon, ben voilà, c'est comme ça. Et puis, ça change aussi dans la vie. Au début de notre mariage, un peu un sujet de plaisanterie entre Anne et moi, c'est qu'il y avait des choses qu'on appréciait plus, et puis on a parfois renversé les rôles au bout de 13 ans. Alors essayons de trouver des textes. Par exemple, les paroles valorisantes. Dans le Cantique des Cantiques, qu'est-ce qu'il dit le bien-aimé ? Voici, tu es belle, mon ami, tu es belle, tes yeux sont des colombes. Et elle, voici, tu es beau, mon bien-aimé, oui, tu es agréable. Est-ce que c'est des paroles que l'on a envie de se dire ? Mais non, mais ça va, mais je sais bien, elle sait bien que je la trouve belle, j'ai pas besoin de lui répéter, et puis elle passe assez de temps devant son miroir. Non. Mais non, dites-le. Son mari, il l'a loué. Là, je crois qu'il faut vraiment qu'on s'adresse spécialement à nous, les maris, parce que là, je pense qu'on manque dans les paroles valorisantes. On manque. Et s'il y avait une pondération homme-femme là-dessus, je pense que les femmes attendent beaucoup de nous des paroles valorisantes. Les gestes de tendresse. Oh, elle est belle, cette expression du Cantique des Cantiques aussi. Sa main gauche est sous ma tête et sa droite m'embrasse. Vous voyez ? Ce n'est pas des relations sexuelles, c'est juste un moment de tendresse. Alors nous, c'est vrai que en tant qu'homme, les gestes de tendresse, ça devient rapidement très physique. Mais ce que recherche souvent une femme, c'est un geste de tendresse, une caresse, être avec, voilà. Et alors ça nous amène aussi au moment de qualité. Là aussi, est-ce qu'on prend du temps ? Encore un texte du Cantique des Cantiques. On aurait pu presque faire toute cette rencontre sur le Cantique des Cantiques, mais bon. Comme le pommier entre les arbres de la forêt, tel est mon bien-aimé entre les fils. J'ai pris plaisir à son ombre et je m'y suis assise. Prendre du temps avec, ça c'est une preuve d'amour. Si on sait s'arrêter. Ah, oh, mais j'ai du bricolage à faire. Ah, oh, mais il faut que je fasse ça. Non. Est-ce une priorité ? Passer un peu de temps avec. Échanger. Puis, les services rendus aussi. On connaît ce texte de Galates 5, verset 13. Par amour, servez-vous l'un l'autre. Et puis, les cadeaux aussi. En Genèse 24, verset 53, le serviteur, il avait apporté plein de cadeaux à Rebecca. Cet amour va se décliner ensuite de façon différente. Et il va se décliner d'abord, peut-être par ce texte de Galates 6, verset 2, « Portez les charges l'un de l'autre et ainsi accomplissez la loi du Christ. » Le Code civil en France reconnaît que le soutien est dû et est exigé par la loi. Les époux se doivent mutuellement fidélité, secours et assistance. C'est l'article 212 du Code civil. Alors, qu'est-ce que ça veut dire « porter les charges l'un de l'autre » ? Bien, il y a des charges personnelles. Peut-être qu'un des conjoints est entré dans le mariage en ayant des blessures. Difficile à guérir, une histoire antérieure difficile, et va falloir porter cette charge à deux. Peut-être qu'il va y avoir des problèmes de santé, physiques, psychiques, qui vont survenir, là aussi. Peut-être aussi il y aura des péchés, des mauvais comportements, là aussi il y aura des choses à porter, même après que le pardon ait été demandé. Vous savez, il y a ce texte de Genèse 2:25, ils étaient tous deux nus, l'homme et la femme, et n'en avaient pas honte. Je crois qu'il faut se mettre à nu devant son conjoint, pas faire des barrières, vraiment laisser ouvrir son cœur. Ça nous est arrivé au début de notre mariage, tous les deux, de pleurer ensemble en se racontant des choses. Voilà. Il y avait des choses qui avaient besoin de sortir, et elles peuvent sortir dans ce cadre protégé du mariage. On sait qu'on s'est donné l'un à l'autre, on a confiance l'un envers l'autre, on peut se parler librement, on n'a pas de crainte d'être jugé, et les choses peuvent sortir, et on peut porter ses charges personnelles. Et puis il y a les charges communes aussi, la marche pratique du foyer. Il n'est pas écrit dans la Bible que c'est la femme qui doit faire le repas 365 jours fois 3 fois par an. Non, ce n'est pas biblique. Ce qui est même biblique, c'est Abraham qui a prêté le chevreau en Genèse 18, pour vous donner un exemple parmi d'autres. Il y a les enfants aussi, et la famille plus ou moins proche. Ça aussi, ce sont des charges communes, les charges des parents, les charges des enfants. Puis il y a les soucis professionnels aussi qui peuvent être partagés aussi. Portez les charges l'un de l'autre et ainsi accomplissez la loi du Christ. Ces charges communes aussi, j'y mettrai aussi la question des finances que je n'ai pas mentionnée. On dit que les deux mamelles qui nourrissent les divorces, ce sont une sexualité défaillante et des disputes sur les questions financières.